Et bienvenue à tous sur les antennes de Radio Principe Actif et HDR. Aujourd'hui, 15 novembre, et je suis ravie de vous retrouver après aussi longtemps d'absence à l'antenne. J'espère que vous avez passé de très belles vacances et que la rentrée s'est bien passée. C'est reparti jusque Noël, les amis. Et évidemment, avec moi, on retrouvera Max qui va arriver comme tous les jeudis matins. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir des jeunes qui sont revenus d'un chantier solidaire en Équateur, on peut dire ça comme ça. Alors, ils vont se présenter et on a aussi leur animateur, Michael Noé, des apprentis d'Auteuil. Donc, je vais ouvrir vos micros et vous allez pouvoir donc dire bonjour déjà. Donc, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, donc, Michael, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les apprentis d'Auteuil avant qu'on commence cette matinale ?
Les Apprentis d'Auteuil, c'est une association qui s'occupe exclusivement de jeunes. Hein. C'est une association qui a plus de 150 ans d'existence. Et dans le cadre de ses activités, donc, cette association-là ont des maisons d'enfants à caractère social, ont également des établissements scolaires. On s'occupe aussi des MNA, donc ce sont des mineurs non accompagnés. Donc grosso modo ce sont des mineurs étrangers hein, qui viennent de différents pays et quand ils se retrouvent un petit peu seuls ils se retrouvent isolés dans un pays comme le nôtre en fait, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et puis on a aussi des jeunes qui sont également pris par l'aide sociale à l'enfance donc si on peut dire des franco-français, mais on a aussi également des établissements scolaires. Donc, ce n'est pas que des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Ok, et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet qui s'est passé à l'étranger en Équateur. Et on commence, comme d'habitude sur Principe Actif, d'abord par une musique.
All things go to recreate.
crying in the van with my friend. It was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I make a lot of mistakes.
C'était Chicago de Sufjan Stevens.
Oui, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Oui, je dois être sur le site de le répondeur de principe actif. Donc bonjour. Alors, voilà, ce serait pour que vous annonciez, donc, dans la matinale, un spectacle d'opéra bouffe qui aura lieu dimanche 18 novembre 2018 à 15h à l'Amicale Laïque Évreux-Est, c'est-à-dire le Clos-au-Duc à Nétreville. Donc, le spectacle s'appelle « Le piano de la gare ». Et donc, la troupe d'opérette qui donne ce spectacle, ce sont les Brigandingues. Donc, dimanche 18 novembre, 15h, à l'Amicale Laïque du Clos-au-Duc à Nétreville, 5 rue Pierre et Marie Curie. Voilà, c'est un voyage musical décalé, divertissant. Au revoir, merci.
Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez vous emparer de cet espace pour nous partager vos bons plans, vos événements, vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Un seul numéro, le 02 32 62 57 32, le 02 32 62 57 32.
Wanna let you in, 'cause I wanna mess it up. If you think that it's worth a shot, well, show me what you've got. We say hello and we say goodbye, and I know that we'll be alright. But you and I live far away. Just wait till I come back.
Come back, une chanteuse venue de Malaisie, et on l'a écoutée jusqu'au bout sur Principe Actif. Alors ce matin, on est super nombreux dans le studio, puisque avec Mickaël, on a donc deux jeunes qui sont partis en Équateur. Donc ils vont d'abord se présenter chacun à leur tour. Vas-y, dis-moi du coup ton prénom et qui es-tu ?
Je suis Morgane.
Oui, il faut bien parler dans le micro. Vas-y, donc tu t'appelles Morgane, donc bonjour Morgane. Quel âge as-tu ?
19 ans.
Et donc t'es partie en Équateur avec les apprentis d'Auteuil. Ça fait longtemps que t'es avec l'association des apprentis d'Auteuil ?
Ça fait 5 ans que je suis avec les apprentis d'Auteuil.
Et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Pourquoi t'as choisi de partir en Équateur ?
Parce que c'est un chantier humanitaire et aller donner de l'aide à d'autres personnes, c'est... Bah, j'aime bien.
Ok, super. On va dire bonjour du coup de l'autre côté.
Bonjour, moi c'est Loïc.
Bonjour Loïc, quel âge as-tu Loïc ?
18 ans.
Et toi, ça fait longtemps que tu es avec les apprentis d'Auteuil ?
2 ans.
Et pourquoi tu as décidé de partir en Équateur cette année ?
Parce qu'après c'est un projet qui peut nous apprendre plein de trucs et ça peut nous apprendre plein de trucs.
Du coup, vous avez tous les deux choisi de partir dans un chantier humanitaire en Équateur. Donc peut-être que soit vous, soit Mickaël, si vous n'y arrivez pas, si vous séchez, mais c'était quoi le but de ce chantier du coup en Équateur ? Et vous êtes allé où surtout en Équateur ? C'était dans la capitale
On a été à La Moya dans une...
Bien devant le micro, merci.
Dans une petite ville.
Ouais, dans une petite ville.
Dans une communauté.
Ouais, une communauté.
De combien de personnes la communauté ?
45 familles.
Attends, je t'allume ton micro. Hein. Okay.
45 familles.
45 familles, ça représente combien de personnes ? Vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, vous, quand vous y étiez ?
Non, étaient plutôt discrets. Ils étaient timides et réservés.
Ok, et vous viviez avec les familles. Ok, chacun dans une famille ou tous dans la même ou...
Chacun dans une famille, après il y en a qui étaient par deux et il y en a qui étaient tout seuls.
Et vous étiez tout seul ou...
Non, moi j'étais avec une autre fille.
Ouais, et
La première semaine, ouais. La deuxième, non.
Et c'était impressionnant d'être seul ou c'était mieux d'être seul ou c'était mieux d'être à deux ?
C'est mieux d'être à deux.
C'est mieux d'être à deux.
Pourquoi ?
Parce que déjà, il n'y a pas trop la barrière de la langue. Et on est là pour soutenir quand l'un est fatigué, l'autre peut la motiver.
Et toi, Loïc, qui a été seul, ça a été ? Ou t'as préféré du coup quand vous étiez deux ?
Ouais, largement.
Pourquoi ?
Parce que moi, déjà, je parle pas du tout espagnol. C'était trop compliqué quand j'étais la première semaine. Après, deuxième, j'étais avec quelqu'un qui parlait un peu espagnol et tout. Du coup, c'était mieux.
Comment vous avez fait, du coup, pour... dans les binômes, il y avait chaque fois quelqu'un qui parlait un peu mieux espagnol ou vous êtes vraiment débrouillés tous
On s'est démerdés. Je pense qu'on s'est tous démerdés avec ce qu'on avait.
Ouais. Toi, Morgane, tu m'as dit oui, il y a des gens qui parlaient mieux espagnol.
Moi, la fille avec qui j'étais dans la famille, elle parlait espagnol un peu. Donc, elle comprenait.
D'accord. Et vous avez pu apprendre espagnol, vous, du coup ?
Quelques mots ?
Pas du tout.
Pas du tout. Du coup, vous avez parlé que en français avec les autres jeunes et les profs, t'as quand même communiqué avec les gens là-bas.
On a quand même communiqué un peu, mais...
Mais ?
Mais c'est dur.
Oui, c'est dur.
Après, il y a les gestes, on arrive toujours à se faire comprendre, de toute façon.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Qu'est-ce que vous avez utilisé d'autre pour du coup vous faire comprendre ?
Les gestes.
Il y a Google Traduction, il y avait les gestes. Et puis, des fois, on se faisait passer pour des fous.
en faire des gestes qu'ils ne comprenaient pas du tout. Est-ce que dans les gestes, parfois, en fait, parce qu'on mime toujours ce qu'on connaît, mais il y a différentes manières de mimer les choses, parfois, d'un pays à l'autre. Mmh. Est-ce que parfois, en fait, ils ne comprenaient même pas les mimes, parce que ce n'était pas les mêmes références, ou vous n'avez pas du tout remarqué ça?
Bah après, moi, je faisais en sorte de faire comme si c'était avec des enfants, mmh, les mimes. Du coup, je me mettais dans la tête d'un enfant et après, je faisais les mimes et ils comprenaient.
Ouais, donc, finalement, vous avez réussi à communiquer avec les gens sur place. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 semaines, du coup? C'était quoi le but du chantier? Vous avez fait quoi?
Agrandir un restaurant.
Attends, je te remonte ton micro.
Agrandir un restaurant?
Ouais. Agrandir une auberge de jeunesse.
En fait, la communauté indigène avec qui on vivait, en fait, c'est une communauté qui sont des Quichuas. Et ils développent en fait le tourisme communautaire. C'est quand même une population très pauvre, très discriminée en Équateur. Et donc, pour pouvoir s'autosuffire, donc ils ont développé donc le tourisme communautaire. Et comme ce...
Donc, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est pas la première fois, du coup, qu'ils reçoivent des groupes de jeunes étrangers. Ils font ça régulièrement.
Oui, c'est pas la première fois, tout à fait.
D'accord.
Ils ont notamment reçu des Canadiens. Donc l'idée en fait de l'agrandissement de ce restaurant, de cette auberge, c'est parce que là-bas on est dans une province qui s'appelle la province du Chimborazo, donc 80% de la population sont des indigènes. Et comme c'est une province qui est très prisée par les touristes, et comme ils sont victimes de leur succès, eh bien pour pouvoir développer le tourisme communautaire, ils ont agrandi cette auberge. Et nous, on est venus à cette occasion, on a participé financièrement à cet agrandissement-là, mais aussi on est venus donc avec ce groupe de jeunes pour venir participer aussi à la main-d'œuvre. D'ailleurs, les jeunes pourront vous expliquer ce qu'on a fait exactement dans le cadre de ces travaux.
Ça a l'air de les faire beaucoup rire, donc on va leur redonner la parole, soit à Morgane, soit à Loïc, qui veut expliquer du coup ce que vous avez fait exactement pendant ces 2 semaines.
Alors, on a poncé des briques.
C'est ce que tu m'as dit quand vous êtes arrivés, poncé. Et quoi d'autre?
Après,
on a peigné.
On a peint. Oui, parce que peigné.
Enfin, la plupart des garçons ont peint les murs. Mm-hmm. Et nous, les filles, on a continué à poncer.
Est-ce que tu avais déjà poncé avant?
Non.
Non, parce qu'on se rend pas compte que c'est fatigant de poncer, en fait. Quand on le voit comme ça, on se dit, ouais, il faut juste gratter et tout. Et en fait, c'est super fatigant.
Je l'avais fait un peu sur un autre projet humanitaire, mais pas autant.
Donc, c'était pas la première fois que tu partais en projet humanitaire avec les apprentis d'Auteuil ou autre?
Non, c'était la troisième fois.
D'accord, donc toi, t'es une habituée des voyages humanitaires. T'étais allée où avant?
En Roumanie.
Ok, 2 fois en Roumanie?
Oui.
Ok, et quelle est la différence que tu as remarquée entre la Roumanie et l'Équateur?
En Roumanie, c'est beaucoup plus organisé.
C'est vrai?
Ouais. Et la nourriture était beaucoup plus variée, mais c'est la même ambiance. Enfin, on est toujours bien accueillis, ils sont toujours heureux de nous voir, et quand on part, c'est toujours un peu triste.
Ok, et toi, Loïc, est-ce que c'est la première fois que tu prenais l'avion? Non?
Ouais.
Raconte-moi cette aventure en avion alors.
Et je crois que la première heure de Amsterdam ici à Amsterdam, j'étais tout blanc. Mais je te jure, j'étais tout blanc.
Pas à l'aise quoi. Et après, finalement, l'avion, ça va?
Après, ça a été. Le deuxième, ça a été, j'étais normal, je bougeais, j'étais normal. Je dormais même.
Ah ouais, carrément, on est dans le niveau. Et au retour, ça a été.
Ouais, au retour aussi, c'était calme.
Donc tu reprendras l'avion?
Ouais, ça on verra.
Ça reste à voir.
Ok, est-ce que c'était toi la première fois que tu partais en chantier humanitaire ou t'étais aussi déjà partie avec les
apprentis? Non, c'était la première fois.
Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait de partir comme loin de la France, hein? Et puis de rencontrer plein d'autres gens, de pas comprendre.
Moi, au début, ça m'a fait bizarre. J'étais perdu, j'étais pas chez moi. Mm-hmm. Il y avait plein de trucs qui me manquaient. Mais après, au bout de la première semaine, c'était très dur. Mais la deuxième, ça allait, c'était mieux.
Qui était dur, c'était ce qui te manquait, la technologie les proches. Qu'est-ce qui t'a vraiment manqué de la France?
Ah, je crois que c'est le quotidien. Mm-hmm. Le quotidien, ma télé et tout. C'est ça qui m'a plus manqué.
Ma télé. Est-ce que avant, t'avais jamais dit je veux quitter la France, par exemple, parce qu'on entend beaucoup de gens dire ça. Ouais, moi, je veux trop aller vivre ailleurs qu'en France et tout. Je sais pas si toi, tu l'avais déjà dit avant, comme ça, lors d'une conversation. Et est-ce que maintenant que tu l'as fait, que t'es partie, est-ce que c'est toujours la même chose que tu penses, ouais, je vais quitter la France, bah, c'est mieux ailleurs?
Si je l'ai dit, maintenant, je ne le redirai plus jamais.
Ouais, parce que du coup, finalement, on est pas mal...
On est vachement avancé comparé à eux.
Qu'est-ce qui t'a marqué qu'ils n'avaient pas et que nous, on a en France et qui est banal, en fait, pour nous?
Ils n'ont même pas de chicha.
Alors, ça, c'est une référence... voilà, pourquoi? Effectivement. Ils n'ont pas de, pas de chicha. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que ce voyage vous a appris à tous les deux?
On a appris une nouvelle culture. Je pense qu'on est tous repartis avec des nouvelles valeurs et une nouvelle...
Et un nouvel état d'esprit.
Voilà.
C'est quoi, par exemple, ce nouvel état d'esprit, Loïc, dont tu parles?
Ah bah moi, j'ai décidé d'arrêter de me plaindre de ce qu'on a. Hein.
Ouais.
Ah ouais.
C'est déjà pas mal, hein.
Ouais.
D'arrêter. Et Morgane, toi, tu parlais plutôt des valeurs. Il y a une valeur qui t'a marqué comme ça?
Bah après, c'est même, enfin, s'ils ont l'argent en nous, déjà, ils se plaignent pas. Ils sont toujours heureux, même quand... Bah, ça va pas, il manque de quelque chose. Ils vont, en fait, il y a de l'entraide, ils sont solidaires. Et dès qu'il y a un problème dans la communauté, en fait, ils se rassemblent tous et ils en parlent tous ensemble.
Bah, c'est ça qui est intéressant aussi à travers ce projet. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on est venu participer à un chantier, on avait quand même un fil conducteur dans le cadre de son projet, c'était. C'est au niveau du vivre ensemble, parce qu'ils ont un mode de vie là-bas qui font que ils sont plus riches que nous. Ils sont pauvres, mais ils sont plus riches que nous parce que ils ont toujours le sourire, toujours la banane, malgré les difficultés. Et puis, comme aujourd'hui, on est quand même dans, faut le reconnaître aujourd'hui, je pense qu'on a pu connaître. Ça existe encore en France. On a certainement connu plus ce genre de mode de vie il y a quelques temps. Mais c'est vrai que on est très individualiste dans le monde occidental et notamment en France. Et le fait d'observer cette communauté qui fonctionne dans ce qu'on appelle la Minga. La Minga, là-bas, c'est les travaux communautaires, en fait. Et qu'il y a...
Tu parles espagnol, toi, Miguel?
Un petit peu.
Il a appris le quechua.
D'accord.
La Minga, en fait, le concept, c'est les travaux communautaires. C'est-à-dire que quand il y a une route à faire, quand il y a le jardin à faire, c'est toute la communauté qui se met en branle pour la communauté. Quand il y a des décisions à prendre, c'est la communauté qui prend des décisions, c'est pas une personne. Alors, même si un chef de file, il y a ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça le maire du village, mais là-bas, c'est le président de la communauté, qui est élu pour une année. Puisque l'année d'après, c'est une autre personne qui prend le relais. Ils prennent les décisions ensemble. Et ça nous fait penser que voilà, c'est toujours possible de vivre ensemble et d'avoir de l'entraide, de la solidarité. Il y en a en France. Mais...
Pas de la même manière.
Pas de la même manière. Et je constate quand même que c'est de plus en plus difficile d'être dans cette dynamique-là. Et le fait que les jeunes voient... ce type de c'est quand même eux demain qui vont faire la société de demain, donc du coup l'idée c'est que qu'ils se disent pas voilà on est dans un monde individualiste parce qu'ils sont nés dans ce monde là.
On fait une pause musicale et on revient après avec vous trois pour continuer à parler du coup de cette expérience en Équateur.
Why you gotta stay?
What You Gonna Say de Equal Idiot, qui est un groupe de garage de Belges, évidemment. Vous me connaissez, c'est toujours un peu belge cette matinale.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principatif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principatif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons
Le
plans.
Le pire reste à venir.
Et d'habitude, on est plutôt en retard et cette semaine, on est plutôt en avance. On va faire la chronique internationale de 8h30. On est un peu en avance pour une fois, ça nous changera. Angela Merkel a été applaudie par tout le Parlement européen à Strasbourg. C'était même une standing ovation quand elle a soutenu l'idée d'une armée européenne pour répondre à Donald Trump. Une armée européenne qui compléterait l'OTAN et non qui la remplacerait. Elle soutient ainsi Emmanuel Macron qui, lors des cérémonies du 11 novembre, avait appelé de ses voeux à cette fameuse armée européenne, ce qui n'avait déjà pas plu du tout au président américain. Le 13 novembre, le Parlement européen a adopté le paquet énergétique, décrite comme la plus belle loi de la législature par Michèle Rivasi, une eurodéputée française du Parti Vert. Le texte est ambitieux énergiquement parlant et contraignant pour les États membres. C'est historique et il va falloir maintenant surveiller que les pays suivent bien la décision européenne. Et s'ils ne font pas, quelles seront les sanctions? Surtout que les prochains mois vont être chamboulés par les élections européennes. Ça y est, il y a un accord sur le Brexit négocié depuis des mois par Theresa May et les négociateurs européens. La première ministre anglaise devait ensuite le faire valider par son propre gouvernement. Ça aussi, c'est chose faite. Elle l'a fait hier pendant plus de 19 heures et c'est après 19 heures de négociations qu'elle a réussi à faire accepter cet accord alors que plusieurs ministres n'étaient vraiment pas convaincus. La semaine dernière encore, le ministre des Transports démissionnait et demandait un nouveau référendum. Maintenant qu'elle a convaincu son camp, elle doit se rendre devant le Parlement aujourd'hui et il doit le valider, donc le voter dans quelques semaines en décembre. Et là aussi, ça risque de coincer. L'accord fait plus de 500 pages et le point le plus épineux ne serait pas les relations commerciales, mais encore et toujours la frontière avec l'Irlande du Nord. Et c'est sur ce point que les Européens ont peur du rejet du Parlement britannique. Ça a déjà commencé puisqu'en Écosse, on a déjà qualifié cet accord de catastrophique pour les Écossais qui espèrent donc le rejet au Parlement britannique pour pouvoir renégocier. À quelques mois de la sortie du Royaume-Uni, il serait temps de boucler l'accord et de prévoir dans la pratique cette sortie à laquelle tous devront s'habituer. Mais dans les couloirs de Bruxelles, ce qui stresse les eurocrates, ce n'est pas le Brexit, mais plutôt le budget italien, puisque le gouvernement a refusé de revenir sur son budget alors qu'il ne rentre pas dans les clous de Bruxelles. L'Italie reste une économie importante de l'Union européenne, première puissance du sud de l'Europe. Si elle vacille, c'est toute la zone euro qui tremble. Une zone euro en danger inquiète beaucoup plus qu'une sortie d'un pays déjà un peu à part. Pendant ce temps-là, c'est toujours la corruption et son impunité qui choquent en Roumanie. On considère que c'est la plus grosse mobilisation depuis 30 ans. La population se soulève contre ces corruptions omniprésentes dénoncées par de nombreux lanceurs et lanceuses d'alerte. Sortons de l'Europe maintenant pour nous rendre au Bangladesh où le pays vient de conclure un accord avec la Birmanie pour rapatrier les réfugiés Rohingyas malgré l'objection de l'ONU. Des milliers de réfugiés de cette minorité musulmane vont être reconduits de force en Birmanie dans un pays où ils sont donc massacrés. Inutile de préciser que ces retours forcés créent des tensions énormes entre les forces de l'ordre et les personnes dans les camps de réfugiés. Climat pour terminer, tandis que les incendies ravagent encore une fois la Californie, une étude calcule la vulnérabilité climatique des villes selon plus de 50 critères. Selon ce rapport, 2/3 des villes africaines sont en risque extrême, notamment en cause la démographie explosante et le manque d'infrastructures adaptées. Si vous voulez retrouver l'étude, c'est le cabinet Verisk Maplecroft qui l'a produite et elle est téléchargeable en anglais. Et devinez quoi, dans le top 10 des villes les mieux classées, soit le moins risque, on trouve Rouen. Les gars, on est sauvés.
Fallait-il que je m'en souvienne, petite fille?
tu vois, on n'oublie pas. Je n'oublie pas.
C'était la musique du monde, c'était Koffi Olaminde Enrique. C'est donc une musique congolaise.
Oh bah c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Et avant de revenir du coup sur nos invités, leur voyage en Équateur, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont découvert, est-ce que l'Équateur était un beau pays? Et surtout, comment est-ce qu'on monte un dossier de cette ampleur? Je voulais juste vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai vue hier à Conches, qui s'appelle « Cri dans un jardin », qui est tirée du livre de Marie Murski. Donc je voulais vous en parler, j'aurais bien aimé vous ramener un micro-trottoir ou les réactions des gens, mais je n'ai pas pu tendre mon micro pour la simple et bonne raison qu'il y avait tellement d'émotions que les gens n'arrêtaient pas de parler et qu'à un moment, j'ai bien dû quitter la salle et rentrer chez moi pour être là ce matin. Et c'était simplement pas terminé. Donc en fait, « Cri dans un jardin », c'est l'histoire de Marie qui, pendant 14 ans, a été mariée à un pervers narcissique qu'elle nomme HB. Elle raconte sa longue descente aux enfers et ses 10 années profondément en enfer. Elle a été violentée aussi bien psychologiquement que physiquement. Alors bien sûr, il faisait toujours attention à ne pas marquer son visage. Donc c'était des violences silencieuses et des violences invisibles. Elle raconte que c'est le plus difficile et elle avait aucune preuve de ce qu'elle avançait. Elle a mis longtemps à s'en sortir. C'était très émouvant. Marie Murski était sage-femme dans l'heure pour le département et du coup il y avait nombreux de ses collègues qui étaient là hier soir et qui ont été du coup très touchés. C'était une pièce très émouvante. Je vous encourage à acheter son livre et à lire du coup Cri dans un jardin. Marie Murski fait également des ateliers d'expression à Accueil Service à Évreux et elle se rend régulièrement dans les collèges, dans les lycées pour témoigner de son expérience puisque ça peut arriver à tout le monde de tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique et Marine raconte qu'elle a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Elle a mis 14 ans mais notamment 3 ans où elle était en contact avec le CIDFF où elle était encore quand même coincée chez elle. Donc et finalement, ce qui l'a fait partir, c'est qu'il a essayé de la tuer et que les gendarmes l'ont donc enlevée de chez elle. Cet homme n'a eu qu'un rappel à la loi, parce que c'est un homme connu. Et donc, elle était là avec plus rien. Il l'avait isolée de tous ses amis, de sa famille. Il l'avait dépouillée de son argent aussi. Donc, elle a aujourd'hui le courage non seulement de revenir là-dessus, de témoigner à visage découvert, ce qui n'a pas été évident pour elle. C'est ça qu'elle raconte. C'est ce dont elle est le plus fière. J'espère avoir l'occasion un jour de pouvoir vous ramener du coup une interview de Marie Murski pour pouvoir en parler plus longuement. Surtout que dans exactement 10 jours, le 25 novembre, on sera la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Une journée excessivement importante, évidemment, puisque les femmes partout encore dans le monde sont victimes de violences physiques ou psychiques, et ou psychiques souvent. Et le message qui est ressorti d'hier soir, dont je voulais absolument que je voulais transmettre à l'antenne, c'était qu'il faut pas tourner le dos aux personnes qui tombent sous emprise, parce que le jour où elles vont s'en rendre compte, elles n'auront plus personne pour qui leur tend la main. Le sortir d'une situation d'emprise, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et donc, il faut être là tout le temps. Il faut pas les abandonner. Il faut être vigilant. C'est un devoir citoyen qu'on peut tous et toutes avoir de repérer ce genre de situation et d'essayer de sortir ces femmes de là. Donc voilà, ça, c'était vraiment mon message ce matin. Je peux pas vous ramener plus et de témoignages. Je vous le dis, il y avait une énorme émotion à Conches hier soir. J'espère que vous aurez l'occasion de voir Cri dans un jardin. Je suivrai ça de près et je vous l'annoncerai sur Principe Actif. Et j'espère que la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus à l'occasion du coup de cette fameuse journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. D'ailleurs, j'ai une petite question, Michael. Est-ce que vous avez remarqué un peu, vous avez fait attention à la situation des femmes en Équateur ou dans la communauté en tout cas dans laquelle vous étiez, puisqu'on sait qu'en Amérique latine, en général, la condition des femmes n'est pas terrible.
Malheureusement, effectivement, les femmes sont battues en Équateur. Hein, donc, ce qui est assez intéressant, je pense que les indigènes étaient épargnés par cette question-là, mais non. Je pensais que c'était que les autres Équatoriens hors indigènes. Mm-hmm. Mais les indigènes sont aussi concernés par cette question. C'est une des raisons pour laquelle les projets... parce que la Moya, en fait, c'est une communauté. Ouais. Mais en réalité, là où on est, il y a 17 communautés quechua.
Avec... Dans la même région dans ou, la m- ou sur tout l'équateur?
Pas sur tout l'équateur, sur le, dans, la même, dans le secteur où on est, il y a 17 communautés. Et l'association qui nous a aidés à construire ce projet qui s'appelle Awana, qui veut dire tisser en quichua, donc coordonne un petit peu toutes ces actions-là de ces 17 communautés. Nous, on était parmi, on était à La Moya, une parmi les 17 communautés. Effectivement, les femmes ne la discrimination, elle est aussi au niveau des indigènes, mais elle est aussi au niveau des femmes. C'est une société très très machiste, hein. En tout cas en Équateur.
Et c'est global en Amérique latine, hein. Il y a beaucoup beaucoup de sociétés très machistes en Amérique latine.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Awana a fait en sorte que ce soit les femmes qui portent les projets des communautés. Le projet de tourisme communautaire, c'est les femmes qui portent ce projet-là. Alors bien sûr, il y a des hommes qui travaillent autour de ce projet, mais c'est les femmes qui le portent. Et donc du coup, ça valorise les femmes et ça donne un autre regard sur les femmes. Et l'idée aussi, c'est que les hommes ont, ça change le regard aussi des hommes sur la question des femmes. Et j'ajouterais d'ailleurs par rapport à ce que tu disais que si je ne me trompe pas, en tout cas en France, tous les 3 jours, une femme meurt par les coups de son mari ou de son compagnon.
Oui, exactement. Et les violences faites aux femmes touchent évidemment aussi les enfants et les familles. Ça détruit des familles. Donc voilà, une femme tous les 3 jours meurt sous les coups de son compagnon ou de son mari. C'est quelque chose de systémique et pourtant que tout le monde c'est très connu de tout le monde et pourtant c'est très difficile de porter plainte, c'est très difficile de prouver que on a été violenté, surtout quand effectivement la personne en face, le mari en question ou le conjoint est assez malin pour que ça ne se voit pas et ne laisse pas de traces, puisque par exemple à la gendarmerie vous avez besoin d'un certificat médical. Et j'entendais encore une histoire hier d'une femme qui a été à la gendarmerie pour porter plainte avec un certificat médical, mais son conjoint était passé avant. Et il avait expliqué aux policiers qu'il y avait une situation de violence et qu'elle aussi était violente. Et les policiers n'ont entendu en fait que le mari. Et quand la femme est arrivée, ils lui ont dit « Bon, allez, c'est bon avec vos gamineries. » Donc voilà, c'est très difficile encore. Toute la police n'est pas formée. Heureusement, il y a des assistantes sociales dans les commissariats. Il y a des choses qui avancent. Et donc, on va plutôt se concentrer sur ça. Mais c'est pas terminé. On fait une pause musicale avant de revenir sur le projet de l'Équateur.
Que d'être limité, c'est vrai. Yeah, 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 yeah. Y'a rien de pire que d'être limité, c'est vrai. Quand t'es limité, ça te prend la tête, tu cherches des solutions aux problèmes, ça saoule en vrai. Ça veut dire parfois la colère aide, que la misère aide. Je vais sortir du trou, fils, sans ton aide. Au matin, je m'éveille, puis la thune me dit au revoir, l'ami. Courir après elle, ça me freine, ça me rend triste. Et je dors mal à nuit, bien sûr, c'est à travers la musique que j'existe. Des coups de mes pistes, je me sens fort, je me sens plus qu'optimiste. Je suis comme Héraclès, je mardi cool, je quitte, je laisse la chaise. Et je pars à la chasse, tu m'attrapes, je m'échappe. Tu frappes et je frappe, on veut tu testes. Et je n'écris jamais sous substance, non. C'est ma vie que je chante, en vrai je suis distant. Souvent mal à l'aise, elle dit qu'elle m'aime. Mais m'a jamais vu, c'est fou. Et je ne freine non plus du tout. Car la route est longue et la vie est courte et t'es des ouf. Quand les autres meufs c'est la guerre. Et je ne vois qu'un nombre limité de frères. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, merci Dieu.
Je poursuis ma route, le poids de la vie sur les épaules. Tous les jours c'est la même. J'ai besoin d'avancer, je suis aveugle à tant de choses. Ce soir la lune est belle. Couché dans mon lit, je me vois grimper jusqu'à elle. Je me sens comme Héraclès.
Et oui, je pense à toi presque tous les jours. En vrai, tous les jours. Quand on faisait la guerre, quand on faisait l'amour. Mon amour, elle a besoin de mon numéro, ouais, ouais. Moi, j'ai besoin de ton aide. Car le boulet gros, mais l'océan, c'est grand. Et puis maintenant qu'il me faut les billets verts. Sois patient, s'il te plaît. Je sais qu'on va le faire. J'ai dit, on va le faire. Mon gars, pas comme eux, c'est négro, pas comme moi. Non, 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 je peux l'apercevoir dans leur
et dans le noir, j'ai vu clair. Seigneur, préserve mon cœur. Oh mon Dieu, prends ma peine. Tout ce que je veux, c'est la paix. J'suis anxieux sans arrêt. L'objectif, c'est d'être le plus libre possible. Rester le plus libre possible, c'est l'objectif. Et à eux, puis à moi. Et mes chaînes, trop dures à briser, se trouvent dans ma tête. Donc je me retrouve dans l'air. J'aime être beau dans l'air, comme un aigle. Entre mes rêves et moi, des kilomètres. Foule de phénomènes, fascinante est la vie qu'on mène. Oh, merci Dieu.
Je poursuis ma route, le poids de la vie sur les épaules. Tous les jours c'est la même. J'ai besoin d'avancer, je suis aveugle à tant de choses. Ce soir la lune est belle. Couché dans mon lit, je me vois grimper jusqu'à elle. Je me sens comme Héraclès.
Alors, c'était deux rappeurs belges. Il s'agit de Moka Boka et Swing. La chanson s'appelle Héraclès.
Le pire, il reste à venir.
Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, et ben, il reste à venir. Alors, c'est du lundi au mardi, au jeudi et bien au vendredi. 8h10 à 9h et Bendapu. Sur 99.1 et 102.4. FM, bien sûr.
Le pire, il reste à venir.
Et les chroniqueurs au gros cœur, en parlant de ça, on a Maxime qui vient d'arriver. Bonjour Max.
Oui, bonjour Pauline, bonjour.
Attends, j'annule le je monte le mauvais micro.
Tu me saccages là, franchement, c'est inadmissible.
En fait, je
t'ai
puni quoi.
Voilà, tu m'as puni, non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe Pauline, pourquoi vous avez commencé plus tôt?
Plutôt, ah bah oui, c'est ça, en fait, Maxime n'est pas passé à l'heure d'hiver, ça doit être ça, il a raté ce moment-là, quoi.
Non, je suis passé à l'heure d'hiver. Non, mais je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient mis un jour entre mercredi et jeudi, et que la radio, c'était demain.
Ah bah voilà, si ça vous arrive aussi à vous, amis auditeurs.
C'est à cause des gilets jaunes, comme disait mon camarade à côté. Voilà.
On a dit qu'on parlait pas des gilets jaunes aujourd'hui.
Ils ont commencé le blocus de 17 novembre.
Bah, c'est un peu tôt, mais ils sont en avance, quoi. Ça, c'est super. Bon, bah, Max, vous allez bien. Du coup, ces vacances se sont bien passées. Et cette semaine sans moi, évidemment. Ça devait être le plus dur, je me doute bien.
C'était extrêmement dur, Pauline, de faire une émission sans vous. Et de ne pas pouvoir se plonger dans votre regard pour savoir ce que vous pensiez. Mais plutôt être dans le regard de Timothée. Bon, c'était un peu différent.
Voilà. Différent, voilà. Donc du coup, Max, pour vous mettre au parfum, on parle d'équateur ce matin.
Des plumes qui pendent de vos oreilles, c'est normal.
Ah bah oui, on parle d'équateur et des plumes, non, en équateur.
Oui,
vous avez vu des plumes légères en équateur ou... ou c'est une idée reçue qu'il y a des plumes en équateur?
C'est une idée reçue.
C'est une idée reçue. pas de plumes en équateur.
Pas de plumes en équateur.
Alors, Michael, est-ce que tu peux nous parler peut-être de un peu d'où est venue l'idée de ce projet, quelle va en être la suite aussi, puisque visiblement c'est pas la première fois que vous faites des chantiers solidaires, et donc pourquoi l'Équateur, pourquoi si loin d'un coup?
L'idée naît tout simplement du fait que donc le chef de projet qui a travaillé sur cette action connaissait une personne en fait sur place. Qui est le président de l'association Awana, qui s'appelle Pierrick Van Dorp. Et donc, il a créé cette association-là franco-équatorienne, et ça fait plus de 20 ans que cette association existe.
Est-ce que c'est facile de réunir des fonds pour pouvoir partir en voyage comme ça avec... Vous étiez combien de jeunes en tout ?
9 jeunes.
Combien... Alors du coup, c'est difficile de réunir des fonds Comment oui. on finance ce genre de voyage ?
Oui, c'est difficile de...
C'est difficile ?
C'est un projet quand même à 40 000 euros.
Mm-hmm.
Ah ouais.
On a déjà essayé d'avoir des sous par Erasmus+, mais le problème d'Erasmus+, c'est que c'est une usine à gaz, hein. Déjà le temps de trouver la bonne information pour savoir si on est dans la bonne case par rapport au projet, ça prend un certain temps. Et même quand on a cette information là, on n'est toujours pas sûr d'avoir la bonne information. Donc on va.
Alors là, vous voyez pas les regards que Michael me lance puisqu'il avait fait appel à la Maison de l'Europe et que même avec la Maison de l'Europe, ça a été compliqué de mettre ça sur les rails. Mais peut-être la prochaine fois.
Oui, on va essayer de le faire pour la prochaine fois. Donc du coup, il a fallu donc trouver d'autres financements, et d'ailleurs je remercie la fondation Mercier qui nous a en partie financé le projet quand même, à hauteur de 15 000 euros sur les 40 000. Il y a le fonds JEP et puis d'autres structures qui nous ont aidé à financer ce projet. Ce qu'on appelle l'AESI, donc c'est l'agence de développement, c'est l'AF quelque chose.
Mais bravo, il connaît plus le nom de ses financeurs.
Ils vont demander un remboursement, les financeurs.
J'ai l'impression, oui. Donc du coup, c'est... Et puis après, il faut monter les projets, que ça rentre dans les critères, etc. Donc ça, c'est quand même un gros boulot, puisque là, maintenant, on est dans l'évaluation. Et donc, ce qu'on a fait pour monter le projet, bah, maintenant, il faut faire la même chose pour l'évaluation. Et ça, c'est un gros pavé, ouais.
Les jeunes, est-ce que... Donc Loïc et Morgane, est-ce que vous avez conscience du travail que c'est de monter un dossier? Ou en fait, vous êtes super préservés de ça? Ou est-ce que Michael se plaint chez vous toutes les deux minutes?
Non, ils nous ont mis. On a eu plusieurs réunions, ils nous ont mis au courant que c'était compliqué, ils nous ont un peu expliqué comment ça se passait.
On a eu 6 mois de réunion.
Dit-il.
Max, est-ce que tu as une question du coup à poser à ces jeunes qui sont partis 2 semaines en Équateur?
Ils sont partis 2 semaines en Équateur, exactement.
Trois semaines
en Équateur.
Trois semaines.
Et vous êtes partis faire quoi là-bas? Parce que c'est bien beau, mais.
On est parti poncer. Non.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté surtout? Est-ce que vous avez gardé un lien avec des jeunes équatoriaux?
Oui, j'ai échangé un réseau social.
D'accord.
Équatoriaux.
Équatorial.
Je crois qu'on dit équatorien. Mais...
Équatorien, oui, bah, équatorien, waf.
Donc du coup, sur les réseaux sociaux, Maria, tu dis?
Bon, j'ai eu un échange et je continue à lui parler. Il y a beaucoup de jeunes aussi.
À lui parler?
Bah oui, c'est...
Un équatorien, oui, d'accord, oui.
Non, mais c'est une fille, mais elle lui parlait.
Okay. Ah oui, d'accord.
C'était la fille de ta famille d'accueil ou c'est
oui, non, c'était la fille de la famille d'accueil, oui.
Et toi, Loïc
Moi, ouais, j'en ai, mais je leur parle pas. Parce que je vais jamais sur Facebook.
Et vous parliez quelle langue là-bas, du coup, alors?
Espagnol,
d'accord. Hola, ¿qué tal?
Está bien et tout.
Está bien, tout. Un poco de fuego, por favor.
No habla espagnol.
No habla espagnol.
Ça prend n'importe quoi. Du coup, pendant la pause, vous me disiez que par contre, la nourriture, c'était relativement...
Du riz, de la soupe, de la soupe.
Voilà, ah oui. du riz, de la soupe, de la soupe. Et vous avez monté aussi un sommet le plus proche du soleil.
Le
c'est ça.
Brazo.
Ah, vous avez été touché le soleil du bout des doigts presque.
Les garçons, pas les filles.
Fantastique. Et est-ce que ça vous a donné envie le goût du voyage? Est-ce que vous l'aviez déjà? Est-ce que vous étiez déjà parti? Ou est-ce qu'à partir de ce moment-là...
Moi, c'était la troisième fois que je partais.
Troisième fois, d'accord. Ouais. Et toi, Loïc?
Bah moi non, c'était la première.
Première, d'accord. Est-ce que c'est un truc que t'as envie de refaire?
Ouais, si je dois y retourner, ouais, j'y retournerai sans souci.
Ou même ailleurs?
Ouais, bah oui, j'irai, mais j'irai pas vivre là-bas.
Ah, d'accord. Ça t'a manqué?
Ouais, quand même, ouais.
Des amis ici?
Ouais,
France,
j'avoue ça.
La télé, Max.
T'as un animal domestique qui fait des câlins en France?
Ouais, un chat.
Là-bas, voilà. C'est toujours le problème.
Allez, ouais. Vu l'heure, on va passer au bon plan.
Ah bah il serait temps.
Bah, tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en 2 fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau?
Et ce soir, du côté d'Evreux et du comptoir des loisirs, vous avez la conférence de Gilles Rigoulet, photographe sur sa vision des années 70-80 d'Evreux et du reste du monde avec un zeste d'humour. C'est donc au comptoir des loisirs à 18h et du côté du 106 à Rouen, un concert. Moa La Squale, apparemment un rappeur qui fait un carton toutes les semaines sur Internet. L'hôtel de ville de Rouen vous ouvre ses portes ce soir en nocturne pour une soirée étudiante, une soirée Zazimut. Donc si vous êtes étudiant du côté de Rouen, allez voir l'hôtel de ville de nuit vendredi. En région parisienne, il s'ouvre un festival d'éducation populaire qui s'appelle Poussons les murs. Et samedi, du côté du coup d'Evreux, un salon bien-être zen à l'association Jeanne d'Arc à Navarre de 10h à 18h, un concert au Cube à 20h30. Arthur H. est du côté du 106 à Rouen, IBI en concert. Et pour terminer, à Verneuil d'Avréditon, vous avez la scène ouverte à la MJC. Le silo, du coup, scène ouverte samedi soir et dimanche à Évreux. Vous avez le festival Bulle d'air sur la base 105 d'Évreux, le festival de la bande dessinée aéronautique et donc la fameuse l'opéra bouffe au Clos-au-Duc à 15h. Il est déjà l'heure de se dire au revoir. Je vous dis une très belle journée pleine de bonne humeur. Merci à nos invités. Merci Mickaël, merci Morgane, merci Loïc, merci Gaël pour la programmation musicale et merci Max pour sa présence ce matin. Et je vous souhaite une très très belle journée.